On peut dire qu'un lecteur réécrit de toute manière le livre de l'auteur. Est-ce que la forme courte, et de quelle manière, selon vous, accentue ce phénomène-là, de la réécriture par le lecteur, de la liberté qui est offerte au lecteur?
Je crois que ça tient au fait que, et Umberto Eco explique ça très bien, alors que lui est plutôt dans l'écriture baroque. Mais il a très bien analysé, il a une grande admiration pour les minimalistes, entre guillemets, hein, comme Jorge Luis Borges, qui pour moi est l'écrivain, et Cortázar après lui, et plus récemment Paul Auster, enfin des gens comme ça. Mais Umberto Eco explique très bien aussi que ce qui permet cette plus grande liberté du lecteur, c'est le fait qu'il y a moins de détails. C'est-à-dire que dans l'écriture baroque, on prend le lecteur par la main, me semble-t-il, et on lui dit « Viens, je vais tout expliquer. » Alors, il y a une femme, elle a une robe à fleurs, elle est blonde de cheveux, elle a les yeux bleus, elle fait ceci, elle fait cela. Dans l'écriture « Less is more », on dira, l'histoire se passe à l'orée d'une forêt, il y a une maison, y vit une femme et sa fille. On ne vous dit pas comment est la femme, on ne vous dit pas comment est la fille. C'est beaucoup plus elliptique. Mais cette ellipse crée des ouvertures. Et comme dit très bien Paul Auster, la nature humaine ne supporte pas ces vides et les remplit de lui-même. Il se raconte donc dans les creux l'histoire qui manque. Voilà pourquoi, me semble-t-il, il y a plus de liberté dans le texte, dans la forme brève, pas dans le texte court, dans la forme brève, que dans l'écriture plus baroque. Mais il y en a de splendides, hein. Le nom de la rose, c'est un roman extraordinaire.
Ce n'est pas un jugement qualitatif
non,
sur l'un ou sur l'autre.
Non, il n'y a pas de jugement qualitatif. C'est deux écritures différentes, c'est tout.
Il y a deux des textes sur lesquels j'aimerais revenir. Le premier raconte comment on peut inventer encore de nouveaux signes d'écriture. C'est Les Petits Poucets.
Alors, Le Petit Poucé, c'est une sorte de retraversée du conte, donc de réinterprétation. C'est une chose que j'aime bien faire et que j'ai fait, par exemple, avec un mythe, ici c'est un conte, avec le mythe d'Ariane. Donc, par rapport au Petit Poucé, tout le monde connaît bien l'histoire, et les petits cailloux salvateurs qui ont sauvé le cadet de la fratrie
le cadet de la fratrie.
Et ses frères. Et en fait, j'en ai fait une histoire de mots. Pour moi, les cailloux, ce ne sont pas des petits cailloux blancs, mais si vous voulez, ils sont emblématiques, ou ce sont les symboles d'un notre langage, qui est celui des jeunes aujourd'hui, et qui est ce langage silex, ou ce langage pierre, ce langage extrêmement lapidaire, que l'on trouve, d'abord qui est parlé, mais qu'on trouve aussi écrit dans les SMS ou textos, dans la poésie, la poésie urbaine, le slam, dans toute une série de manifestations de ce qu'on peut appeler la culture ado ou la culture jeune.
Qui développe d'une certaine manière la forme courte aussi.
Tout à fait, parce que ce sont des phrases extrêmement rapides. Il ne s'agit plus de bien écrire au sens classique du terme selon les règles, avec un sujet, un verbe, un complément, une relative, etc. Non, il s'agit d'aller vite, il s'agit de balancer son message et que ça porte. C'est un langage fronde. Et la première version de ce texte-là a d'ailleurs paru dans Marginal il y a, je crois, un an, sous le titre « Les six lex », 6, le chiffre lex, des sept frondeurs.
Parlons de la, du deuxième texte que je relis à celui-là, parce qu'il intègre aussi les nouvelles technologies de l'écriture, ce sont les perles du correcteur. Mmh. En réalité, ici, ce n'est pas un correcteur humain, c'est le dialogue que vous entretenez avec le logiciel correcteur. Et là, c'est un texte amusant, drôle, oui, mais plein de vérité, qui donne le vertige aussi.
Oui, enfin, on peut toujours débrancher le correcteur de l'ordinateur. Hein. Mais moi, ça m'a beaucoup amusée et à un moment donné, je me suis dit, je prends note de tout. Chaque fois qu'il me fait une proposition, et ce sont parfois des propositions, ça devient absurde, hein, franchement surréaliste. Si on intègre la suggestion du correcteur d'ordinateur au texte, on peut avoir un texte extrêmement drôle. C'est ça que j'ai... Bon, mais rien n'oblige, hein. Mais c'est vrai que c'est pas fait non plus tout à fait pour les écrivains ou pour les poètes, hein, ce genre de truc. C'est fait pour les gens qui rédigent une lettre, un rapport. Mais rédiger, c'est peut-être pas tout à fait écrire. C'est peut-être pas synonyme.
Ou bien on peut peut-être, et c'est un peu le sentiment que moi j'ai retiré en vous lisant, se dire qu'il y a là un nouveau vivier de créativité lexicographique et qu'on pourrait arriver à une forme d'écriture automatique comme les surréalistes.
On pourrait. Je vais y penser.
Vous n'êtes pas convaincu. Alors, un autre de vos textes raconte la prise de notes, et ça s'appelle le corps écrit. Et alors là, j'ai adoré votre formulation, la différence qu'il y a entre des crochets que la narratrice indique à l'intérieur des notes qu'elle prend lors d'une conférence, et en regardant sur les notes de son voisin anglophone, elle ne sait pas s'il s'agit de footnotes ou de footnotes.
Oui, ça c'est le début de l'histoire, donc elle ne sait pas si ce sont des notes, j'allais dire des notes de pied, des notes de pied de page, oui. Ça s'appelle le corps écrit, hein, comme par hasard.
Oui, tout à fait, oui.
Et donc, ou si ce sont des food, F2OD, notes, des notes qui viennent nourrir le texte. Donc elle a une hésitation, elle finit par comprendre que c'est effectivement... footnote, et puis elle se laisse aller, et non, je crois qu'elle relit une prise de notes, et elle se rend compte à un moment donné, je crois que c'était lors d'un colloque Barthes, ça tombe bien évidemment, hein, enfin d'un sémiologue ou l'autre, et elle explique qu'elle note fidèlement, mais qu'elle note aussi ses réactions mentales, ce qu'elle entend lui suscite. Mais ça, elle les met entre crochets, de manière à rendre à César ce qui lui appartient et à la femme de César ce qui lui appartient. Et lorsqu'elle relit ses notes, la narratrice explique qu'elle entend le conférencier à propos de Barthes faire une citation, donc de Roland Barthes. La citation est, et elle la note, bien, fidèlement, le corps, principe de toute structuration, donc on est vraiment dans des trucs très sérieux, et un peu après, dans la langue, c'est le phallus qui parle. Phrase suivante, et illico, elle met entre crochets, et le vagin écoute sans doute. Mais c'est vrai que quand on retrouve ces notes et qu'on a, et les notes, les citations du conférencier et ses propres notes, ça peut donner là aussi un certain humour, une manière de voir comment on a reçu une information littéraire.
Ici, c'est l'esprit conscient qui réagit à la lecture et à l'écoute d'un texte. Dans un de vos textes qui est le plus émouvant, je trouve, se trouve aussi la manière dont l'inconscient réagit. Ce sont les bottes qui réapparaissent comme un souvenir d'enfance, d'un enfant dans une cave. Oui. La botte du soldat allemand revient des années et des années après dans la manière d'écrire le chaboté.
Alors là, c'est une vraie nouvelle. Dans cette nouvelle qui s'appelle « Le plomb, la plume et la lettre », en effet, c'est une histoire qui se passe pendant les nuits de bombardement sur Bruxelles, pendant la guerre. Et tout se joue, en fait, 30 ans ou 40 ou 50 ans, ou 40 ans après, sur une lettre. Vous avez parlé des bottes, mais en fait, le mot qui fait qui va faire problème, c'est le mot « lieu ». Alors, selon qu'on l'écrit « lieu » comme un espace, ou qu'on l'écrit comme l'unité de distance, le lieu, on est à 100 lieues de, eh bien, tout se joue là. Et on verra que le personnage féminin a écrit les bottes de ce lieu, et pas...
Et pas les bottes de sept lieues, la distance dans, que le, du conte.
Comme alors, quoi, comme vous le disiez, l'inconscient travaille de son côté.
Ça, l'inconscient réagit au texte lu, à la lecture, parce que c'est aussi, votre livre est aussi un très bel hommage éparpillé dans les 15 nouvelles pour la lecture, pour le rapport entre le lecteur et le texte écrit, y compris même le rapport qu'il peut y avoir entre l'auteur et la typographie. Parce que certains de vos textes, vous retravaillez la typographie. Vous avez une typographie qui est très particulière, qui remet en page le texte à l'intérieur du livre, qui joue sur le lettrage, sur la disposition de la page du texte dans la page. Alors comment vous vient ce travail-là? C'est aussi une manière de créer des espaces pour le lecteur, mais aussi pour l'auteur.
Enfin, je ne sais pas très bien comment ça me vient, mais toujours est-il que je crois que la mise en page, si vous voulez, la répartition sur l'espace page est aussi une invite faite par l'auteur au lecteur. Évidemment, c'est une proposition, mais dans ce texte auquel vous faites allusion, et qui est une sorte de parcours...
Le texte s'appelle Bruxelles-Paris.
Oui, ça se passe sur l'autoroute entre Bruxelles ou Plancenoit et Paris. Et c'est ce qui se passe dans la tête d'un homme qui a un projet d'écriture et qui, tout en conduisant très bien et en étant très attentif aux panneaux routiers, la preuve c'est qu'ils sont là, pense à son projet, pense à son manuscrit. Et la présentation se fait selon deux bandes. Et de temps en temps, il dépasse, de temps en temps, il revient sur la bande de droite, comme on le fait tous quand on conduit. Donc ça joue sur plusieurs registres.
Jacqueline de Clercq, nous arrivons au terme de cet entretien. Je vous remercie pour l'interview que vous m'avez accordée. Je vous remercie surtout pour ces histoires de lettres publiées aux éditions L'Harmattan.
Mais ça me fait très plaisir que vous associez l'intérêt et l'émotion. C'est ce que j'ai cherché ici, c'est de rendre cela léger, agréable.
Et c'est ce qui transparaît magnifiquement. Merci Jacqueline de Clercq.
Merci à vous.
Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le Programme. Les rencontres d'Edmond Morel.